Le climat, il paraît qu'on parle que de ça, de pression, de température, de précipitation, de catastrophe, de dérèglement. Mais qu'est-ce que c'est le climat? Des phénomènes météorologiques, mais pas seulement, c'est aussi des conditions de vie. Quand on parle de climat social, de climat scolaire, de climat politique, etc., on parle toujours d'environnement. Le climat, c'est ce qui agit sur nous, les forces extérieures, le contexte. Et avant de le déterminer, le climat, on calcule précisément les pressions, les températures ou les précipitations sur un lieu donné et sur une longue durée. On ne déclare pas comme ça une zone tempérée ou un climat alarmant, il faut du temps. Et on devrait s'interroger sur le fait qu'on parle tant de climat, peut-être parce qu'il ne s'agit pas d'une crise, mais parce qu'elle dure, ces pressions, températures, précipitations, dans les services d'urgence, à l'école, dans la fonction publique, tous ces dossiers de rentrée relèvent du domaine climatique, précisément parce qu'ils durent. Et à celles et ceux qui jugent superficiel de parler du temps qu'il fait, mais moi je crois au contraire qu'il n'y a pas plus profond comme sujet.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité est sans doute la plus climatologue des académiciennes. On lui doit notamment les portes de Gubbio, la Fraga, Quand même, ou encore plus récemment le passionnant Jojo, le gilet jaune. Ce matin, vous l'avez compris, elle ne nous parle pas seulement de la pluie et du beau temps. Bonjour Daniel Salnave.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Ce matin, tout d'abord, quel temps fait-il en ce moment?
Et vous savez, c'est drôle, quand vous parlez de climat, je me dis que ce mot s'est imposé parce qu'il est mystérieux. Et parce que il est rassurant sans en avoir l'air, puisqu'il dit après tout on n'y peut rien. Dans l'idée de climat, il y a l'idée de quelque chose qui vient de l'extérieur et sur quoi on ne peut pas tellement agir.
Certes.
Que ce soit le climat au sens météorologique du terme ou au sens social, politique. Et c'est pourquoi j'aime pas trop ce mot. Et je préférerais penser, moi, que il faut s'interroger, il faut se demander qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être dans ce monde-là. Alors je peux être quelqu'un qui a peur, qui s'enferme, qui tire les rideaux, qui sort son parapluie, qui monte le chauffage ou la clim l'été, et quelqu'un qui subit. Être quelqu'un qui subit, c'est pas un destin. Il faut être quelqu'un qui peut agir, qui peut être. Donc dans ce cas-là, je veux refuser le mot de climat et je voudrais trouver un autre. Je voudrais poser l'idée d'une saisie de la température du moment.
Il faut la saisir.
Eh bien pour l'instant, on croit au sens large, au sens métaphorique, qu'on est en automne, je ne le crois pas. Je crois qu'on est en train de sortir d'un grand hiver. Et cet hiver a 30 ans, à mon avis. Il a 30 ou 40 ans. C'est quoi ce grand hiver? C'est ce qui s'est emparé du monde quand on est sorti de ce monde rigidifié de la guerre froide. Et on a cru que tout était fini, tout allait bien, puisque un système avait triomphé de l'autre. C'était formidable. Et non, c'était pas formidable du tout. C'était entré dans une période où tout le monde s'est figé. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et petit à petit, maintenant, ça repousse.
Mais qu'est-ce qui pourrait conduire à des améliorations, Daniel Salnave?
Ah ben, beaucoup de choses. Des petites comme des grandes. Bah, j'ai écouté il y a quelques minutes, j'écoutais Thomas Piketty, que je lis depuis le début. Et je me disais, en particulier, prendre le taureau par les cornes, la question des inégalités, par exemple, la prendre en face. Ah ben, voilà une vraie question.
Alors, c'est intéressant. Parce que Thomas Piketty,
tous les domaines.
Écrit précisément. Comment est-ce que vous envisagez le rôle des artistes, des écrivains, des intellectuels aujourd'hui?
C'est très compliqué parce que les intellectuels sortent de beaucoup de secousses et de bouleversements. Il y a eu toute une période faste au fond où les intellectuels pensaient qu'ils pouvaient être des grandes consciences, qu'ils pouvaient penser le monde, qu'ils pouvaient le guider et qui en certains sens, à certains moments, ont eu un rôle effectivement très positif. Et puis il y a eu cette dérive en quelque sorte de l'intellectuel qui pense à la place des autres, qu'il pense pour les autres. Et ce qui est vraiment la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que personne ne veut qu'on pense pour lui. Les femmes ne veulent pas qu'on leur dicte ce qu'elles doivent faire, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient pas musulmanes. Elles veulent pas qu'on leur dicte. Et les gilets jaunes, c'était un peu ça. Nous voulons avoir notre mot. C'est pour ça quand j'entends une phrase qui aujourd'hui, on entend beaucoup en politique. Oui, il faut pas gouverner le peuple, il faut gouverner avec lui. Mais bien plus que ça. Il faut l'écouter. Il faut entendre ce qui se dit, et c'est bien plus que gouverner avec.
Je me souviens, Daniel Salnave, lors de l'apparition de votre livre « Jojo le gilet jaune » paru en avril dernier, vous sembliez dire que la plupart des acteurs du monde culturel, intellectuel, artistique, n'étaient pas assez proches des gens qui manifestent leur colère, justement.
J'ai eu le sentiment, moi, que On avait glissé petit à petit. On était parti d'une période qui était peut-être, il y avait peut-être une certaine naïveté à la fois politique et sociale, où on parlait d'éducation populaire, où Jean Villard faisait le théâtre populaire, où ensuite, après la libération, tous ces grands mouvements. Oui, c'est vrai. Et petit à petit, on a glissé. Au fond, on n'y peut pas grand-chose, on n'y peut rien. Et petit à petit, cette fracture entre les artistes et les couche populaire, c'est agrandi et c'est aggravé.
Mais alors c'est passionnant parce que, compte tenu de ce que vous incarnez, la femme de lettres académicienne, est-ce que vous êtes pour autant perçue comme quelqu'un de proche des citoyens, de leurs préoccupations? Mais parce que malgré toutes les intentions du monde, il est aussi question de perception.
Oui, mais moi je suis peut-être aujourd'hui, comme vous dites, femme de lettres, auteure, autrice, académicienne, mais je suis aussi une fille d'instituteur, de province. Et ça, pour moi, c'est une identité qui compte énormément. Je tiens pas à la ramener tout le temps comme une décoration ou comme pour donner une espèce de cachet d'authenticité. Non, mais ça compte. Je sais ce que c'est d'être d'une famille dans laquelle mes parents, instituteurs, ont apporté quelque chose d'extraordinaire dans une famille qui avait toujours été plutôt ouvrier agricole, petits employés.
Mais comment répondre à ce sentiment de déconnexion aujourd'hui?
Vous voulez dire déconnexion de qui?
Mais c'est ça, toute la question, entre le monde littéraire et intellectuel et...
C'est une vraie question, je pense qu'il faudrait d'abord la poser. Et puis il faudrait soutenir toutes sortes d'initiatives qui sont très nombreuses chez des comédiens, chez ceux qui sont entre autres les intermittents du spectacle, qui ont des initiatives vraiment extrêmement courageuses en direction de, ou avec, ou à l'occasion de rencontres. Moi je vous pense à un exemple que je cite dans Jojo. De jeunes comédiens ont travaillé avec des filles qui sont majorettes. Donc il y a donc une grande expérience du rythme et une belle éducation physique. Mais bon, pour jeter en l'air des bâtons à des inaugurations de supermarché, c'est pas terrible. Ils leur ont fait faire du théâtre et ça a été extraordinaire. Mais moi j'adore ce genre d'initiative. C'est des petites. Il faut pas penser en grande surface, il faut en grande dimension. Il faut penser en petites.
Alors ces questions, on se les pose en particulier en ce moment, dans une période de rentrée, de production de livres, de production importante. La rentrée littéraire, est-ce qu'elle est déconnectée du réel, justement, Daniel Salnave?
Alors c'est compliqué pour moi d'en parler parce que je suis membre de plusieurs jurys, bon, je suis bien, au jury du prix féminin.
C'est la raison pour laquelle je vous pose la question.
Oui, mais c'est compliqué. Je veux pas donner, d'indications sur des choix qui vont petit à petit se dégager. Il est clair que pour moi, il se passe en littérature ce qui se passe partout. C'est-à-dire qu'on a une rupture des genres. On est en train d'entrer dans une période extraordinaire où les livres qui, à moi, me parlent le plus, je ne suis pas un juge absolu, hein, ou une jugesse absolue, qui me parlent le plus, c'est les livres qui font éclater les limites des genres, qui écrivent en même temps à la première et à la troisième personne, qui sont à la fois dans la fiction et dans la non-fiction, qui sont dans le réel et dans le rêve, qui sont aussi sur un sol. J'aime beaucoup cela.
N'empêche, ces dernières semaines, l'actualité littéraire a été monopolisée par un nom, celui d'Yann Moix de Calais. Est-ce que vous avez suivi tout ça?
Oui, moi j'avoue que ça m'a un peu consterné. Ça m'a consterné parce que...
Qu'est-ce qui vous a consterné? Le livre ou la polémique autour?
Tout ce qui en est sorti. Bon, le livre, je l'ai lu, moi je ne me posais pas de questions. Il semblerait qu'il y aura un procès autour des sévices qu'il aurait subi ou qu'il aurait exercé. Ça, je ne peux pas trancher, j'en sais rien. Mais à la suite de ça, il en a découlé toute une... des choses un peu nauséeuses. On est revenu sur sa jeunesse, où il aurait écrit des textes...
Il
a écrit des textes antisémites absolument répugnants. Ben oui. Alors, il s'est défendu très maladroitement. Il se défend en disant, peut-être que j'ai écrit ça, mais aujourd'hui, je soutiens beaucoup Israël. Je trouve que c'est pas une réponse, parce qu'on peut très bien aussi critiquer Israël et ne pas être antisémite.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de littérature.
On ne parle pas du tout de littérature, donc on est là dans quelque chose que, bon, c'est comme ça. Moi, vous savez, ça ne me gêne pas beaucoup, c'est comme ça, on va passer à autre chose.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit sur notre époque, Daniel Salnave.
Ça dit sur notre époque qu'elle est véritablement, profondément, très profondément ébranlée. Ses certitudes sont très profondément ébranlées. Ça va depuis le rôle des femmes à l'intérieur du couple, de la famille. Ça, non seulement sur le plan du travail, sur le plan économique, mais aussi sur le plan quotidien, quand on est en train d'accumuler jour après jour le nombre des femmes qui sont tuées par leur conjoint ou leur compagnon, il y a quelque chose d'absolument effarant.
Plus de 100 depuis le début de l'année.
C'est effarant. Bon, mais sur tous les points, une société est complètement ébranlée. Alors devant l'ébranlement, il y a deux réactions possibles. Ça fait peur, Donc, comme je disais tout à l'heure, on se cache, on ferme tout, on met le chauffage bien chaud, ou bien on se dit, mais cet ébranlement, peut-être qu'il est indispensable pour sortir d'un monde qui ne pouvait pas continuer comme il continuait. Moi, je crois que ce qui nous domine, c'est que nous sommes en train de vivre un décentrement. L'Occident, l'Europe, la France vit un décentrement. Nous ne sommes plus, comme l'a dit Bertrand Badi, nous ne sommes plus au centre du monde. Et ça, pour certains, c'est très pénible, et pour moi, c'est très exaltant.
Celle qui est complètement décentrée dans cette émission, mais alors c'est pas un compliment en ce qui la concerne, c'est la culture. Ma chère Danielle, et son actualité laxiste, et moi j'en fais mieux, je me porte. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 9 septembre?
Coppa Volpi for Best Actress to Ariane Ascardi in the film Gloria Mundi by Robert Guédiguian.
Clap de fin pour la Mostra. La 76e édition de la Mostra de Venise s'est achevée samedi sur un palmarès surprise. Le Lion d'Or revient à l'américain Todd Phillips pour son Joker, porté par un Joaquin Phoenix au sommet de son art. Le Grand Prix du jury revient à Roman Polanski pour J'accuse. Et un joli tir groupé pour les Français cette année, puisque c'est Samy Bouajila qui tire le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Un Fils de Mehdi M. Barzaoui. Et enfin, c'est Ariane Ascari qui remporte le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans Gloria Mundi de Robert Guédiguian.
Dia triste para a democracia brasileira.
Sobre censura, sobre homofobia, sobre a prefeitura do Rio de Janeiro.
Fébrile, le Brésil, la justice brésilienne a confirmé samedi la saisine des exemplaires de la bande dessinée Young Avengers, dernier opus de la série Marvel, très attendu au Salon du Livre de Rio. Le maire conservateur de la ville, Marcelo Crivella, avait demandé le retrait de l'album qu'il jugeait inapproprié. On y voit en effet une scène de baiser entre deux de ses super-héros. C'est chaud.
Emprisonné en Sibérie, le cinéaste ukrainien a retrouvé dans les bras de sa fille une liberté dont il était privé depuis plus de 5 ans.
Libre, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov a été libéré samedi. Il était incarcéré depuis 2014 et devint rapidement le symbole de l'opposition ukrainienne à l'impérialisme russe. En 2018, Oleg avait entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer la libération des 70 autres prisonniers politiques ukrainiens enfermés comme lui pour des raisons politiques. Il avait alors récolté le soutien de la communauté internationale et de grandes personnalités du cinéma européen. Ce combat, qui lui a presque coûté la vie, se poursuit.
Au Toulouse, au Toulouse.
Il chantait Toulouse et rêvait de Paris. Claude Nougaro recevra aujourd'hui l'hommage de la capitale pour le 90e anniversaire de sa naissance. Ça se passe au 43 rue Condorcet dans le 9e arrondissement où l'on révélera une plaque commémorative sur la façade de l'immeuble de son adolescence. L'hommage se poursuit dès ce soir avec l'inauguration d'une exposition des œuvres de Claude Nougaro dans les murs de la mairie d'arrondissement. Normal pour le plus grand. Et l'académicienne, si peu académique, on le disait, Daniel Salnave, on l'a compris, invité de Boomerang, pour un point Daniel. Tout simplement, on en a besoin parfois, notamment à la rentrée. Un point Daniel sur tout ce qui nous préoccupe et nous anime cette rentrée. Vous avez parlé de littérature et ça m'a donné envie de vous poser une question que je pose souvent aux écrivains. Pour vous, qu'est-ce que c'est un livre, en fin de compte?
Je réponds d'une manière incroyablement intime, intérieure. J'ai l'impression que je n'ai jamais vécu sans un livre. Pour une raison extrêmement simple, c'est que, au fond, j'ai jamais appris à lire. J'ai jamais appris à lire parce que quand j'étais enfant, avant l'âge où on entre à l'école, ma mère ne savait pas où me mettre parce qu'il fallait bien que quelqu'un me garde, donc elle me prenait dans sa classe. Alors j'étais assise par terre ou quelque part et j'apprenais à lire en écoutant les autres.
Alors avec quel livre donc, vous avez grandi justement?
Alors j'ai grandi pas forcément avec des bons livres, j'ai grandi avec tout ce qui se présentait. Je tendais la main vers un rayonnage et je prenais un livre. Et ni mon père ni ma mère ne me disaient, je suppose qu'ils n'avaient pas tellement de livres sulfureux. On n'était pas dans l'enfer de la Bibliothèque nationale.
Enfin, cela dit, vous connaissant, je ne serais pas étonné.
Moi, je lisais tout. Je me souviens d'avoir lu, avec une certaine difficulté et un peu de terreur, des poèmes de Victor Hugo dans La Légende des siècles qui décrivait un guerrier qui a tué des enfants, entre autres, et l'aigle qu'il porte sur son casque lui crève les yeux avec ses serres. Et je dois dire, j'avais 6-7 ans quand j'ai lu ça, j'ai eu quelques cauchemars, mais c'est bien, ça m'a prouvé que la littérature, c'est pas simplement du plaisir, du bonheur, du divertissement, c'est des choses graves.
Il y a 9 ans, vous avez publié un livre, Daniel Salnave, dans lequel vous posiez une question passionnante, pourquoi écrit-on des romans? Mais la question que je me pose d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on les lit? Pourquoi est-ce qu'on lit des romans, tiens?
On lit parce que sinon on meurt. On meurt, on ne meurt pas physiquement, mais on risque de mourir, comment dire, on risque s'étioler intérieurement, parce que on risque croire que on est suffisamment alimenté par toutes les choses qui se présentent, l'actualité, les voyages, les jeux vidéo si on est un gamin, etc.
Et, ou un adulte d'ailleurs.
Et un adulte, mais on n'est pas vraiment bien nourri. On est nourri avec de la junk food. C'est pas de la bonne nourriture. Ça manque des vitamines essentielles pour l'esprit et le cœur. C'est quoi les vitamines essentielles? C'est un moment de silence, un moment de repli, un moment de peur aussi, parce que les livres parfois font peur. J'ai parlé avec des gamins dans un collège, il y en a un qui m'a dit, moi quand je lis tout seul, c'était une fille d'ailleurs, elle lise plus que les garçons, j'ai peur. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est pourquoi on a voulu créer cette association Silence on lit, pour faire que 10 minutes par jour, des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les prisons, s'arrêtent 10 minutes et lisent, pour être branchés sur une source vraiment nourrissante, intérieure.
Cette association,
forte.
Vous l'avez créée il y a 4 ans, Daniel Salneuve, Silence on lit, mais imposer quelque chose, c'est pas forcément le meilleur moyen de le rendre désirable. Si...
Ah, on est bien d'accord.
Bah oui, surtout quand on a cette concurrence.
On l'impose pas, on le propose.
Mais quand on a cette concurrence des écrans.
Oui, mais 10 minutes. On demande simplement pendant 10 minutes à des adultes, à des enfants, au milieu scolaire, mais aussi ailleurs, hein, dans les entreprises. Donc ça commence à très bien prendre dans des entreprises, dans des hôpitaux. On demande que pendant 10 minutes ou un quart d'heure, on se concentre sur un livre, avec d'autres en même temps. C'est rassurant. On voit d'autres. Vous savez, on a fait des petits films là-dessus. Ils sont très jolis. On voit des enfants, des adultes, le jardinier dans un collège, le gardien à l'entrée. Tous sont dans un bouquin pendant 10 minutes.
Et sinon, qu'est-ce qu'on risque?
Si on lit pas, oh, on risque de ne pas s'en apercevoir et c'est très grave.
De devenir, vous me disiez, un crétin numérique.
Oui, alors, un crétin numérique, c'est ce que dit notre ami Michel Desmurgés qui a écrit ce livre.
Enfin, notre ami, votre ami, moi je le connais pas. Mais...
Oui, moi non plus, c'est mon ami pour les thèses qu'il défend. Il y a longtemps que je soutiens, je me souviens qu'à France Culture, j'avais parlé d'un de ses tout premiers livres dont le titre m'échappe pour l'instant. Donc, il y a vraiment chez lui une vision incroyablement forte parce qu'elle est appuyée sur une analyse. Sur des expériences. Ses conclusions sont sans appel. L'usage immodéré des écrans à un âge très précoce risque d'avoir des conséquences sur les facultés d'attention, de concentration, de mémorisation. Vous savez, un argument très simple pour répondre à ceux qui me disent c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux qui fabriquent toutes ces belles machines pour nous les vendre, hein, c'est pas pour notre bien, c'est pour leur profit. Eh bien, à Silicon Valley, dans la Silicon Valley, leurs gamins en question, ils ont des écoles où il n'y a pas d'écran. Ils ont des écoles où on travaille papier-crayon. Quelle preuve! Quel aveu!
Parce que qu'est-ce qui disparaît avec la prolifération des écrans? Tout ce que vous avez dit, et puis l'ennui aussi, je me disais.
L'ennui, la concentration, le moment d'apaisement. Il faut apaiser, parce que l'apaisement, c'est le corps, c'est le cœur, c'est l'esprit. Il faut être un peu apaisé. Il ne faut pas être speedé tout le temps. Et comme moi, je ne cherche nullement à dire que le monde moderne est mauvais, qu'il faut s'en détourner, pas du tout. Il faut créer des brèches. Vous savez, dans une forêt, vous êtes content quand il y a une clairière. Hein, ça repose. Il y a du calme, on entend les petits oiseaux.
Le
c'est
calme.
Ça, le calme.
Et puis le silence aussi.
Le silence.
Je me disais, quelle place est-ce que vous avez, le sentiment qu'on lui accorde au silence aujourd'hui?
Mais on a du mal. On a du mal à accorder de la place au silence, puisque le bruit est un peu partout. Cela dit, le bruit, il n'est pas d'hier. Hein. Il y a des satires de l'époque romaine où Juvénal dit que la Rome est infernale à cause du bruit qui y règne. Hein.
Alors, et qu'est-ce qui fait la beauté d'un silence pour vous?
La beauté du silence, c'est qu'on a un moment où toutes sortes d'êtres, de choses, nos morts, ceux qu'on a perdus, ceux qu'on ne connaît plus ou qu'on ne voit plus, reviennent, nous entourent. Nos rêves aussi, nos désirs, tout cela arrive, toute cette petite foule arrive. Et on est au milieu d'elle pendant quelque temps, on s'apaise ensemble, on se sent mieux après.
Et la beauté d'un échange?
Mais on a un échange avec ceux qui ne sont plus là, et on l'a dans le silence. Mais l'échange, on l'a aussi avec ceux qui sont là. Peut-être que quand on sort d'un livre et qu'on rencontre quelqu'un qui sort d'un livre aussi, c'est un échange merveilleux aussi. D'abord parce qu'on va échanger les livres.
Alors on va échanger. Continuer à échanger tous les deux, si vous voulez bien.
Juste après un
peu,
mieux.
Juste après un peu de beauté. Ah bah toujours plus de beauté dans cette émission et la promesse d'un nouveau monde quand même, et pas par n'importe qui. Mama Cass, New World Coming en 1970. Vous êtes sur France Inter avec Daniel Salneuve, vous écoutez Vous me manque.
And Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bon, on est quelque part entre la ministre, Dany le Rouge et ma tante Nicole, reine du sudoku et des crèmes renversées, balayage de compètes, lunettes papillonnantes, regard d'un bleu effervescent, impétueuse, passionnée, convaincante avec son petit pull en V bleu marine et ses lunettes double foyer, l'académicienne Danielle Salnave, invitée de Boomerang ce matin pour parler de littérature aussi, on l'a compris très tôt, vous vous êtes tournée vers les livres, vers les mots. Pourtant, à quel moment de votre vie est-ce que vous avez ressenti le désir de vous emparer du langage, Danielle, d'écrire? Précisément.
Alors, s'emparer du langage, c'est plutôt le langage qui s'est emparé de moi. Je veux dire par là que qu'est-ce qu'on découvre quand on est un petit enfant? On découvre bien sûr les limites de son corps, on découvre le monde tout court, le monde naturel. On tombe, on respire des odeurs, on a des chats ou on n'en a pas, c'était mon cas, j'en avais. Et puis, on est pris par les mots. Et j'ai eu l'impression que c'était une sorte de tourbillon, de gouffre qui allait s'emparer de moi et que je pourrais y disparaître. Il fallait donc que je nage dans cette espèce de maelstrom.
Mais pas pour écrire n'importe quoi. Votre premier roman, Paysage de ruines avec personnages, paru il y a 40 ans, 44 ans même. Ah oui. À l'époque, quelle place occupaient les femmes dans le paysage littéraire français?
Les femmes ont toujours occupé une bonne place dans la littérature. Depuis toujours. Même à l'époque où on répète que les femmes n'avaient aucune place nulle part. Par exemple, l'Académie, les femmes, il a fallu 300 ans pour qu'on en accueille. Mais... les femmes déjà étaient très présentes. L'un des tout premiers prix que décerne l'Académie en 1660 ou quelque chose comme ça, c'est pour une femme, Mademoiselle de Scudéry. Mmh. On reconnaît complètement que les femmes ont une place éminente dans la littérature. Et Marc Fumaroli, mon confrère, a dit quelque chose de très fort là-dessus. Il dit les femmes ne connaissaient pas l'éducation que les hommes subissaient, c'est-à-dire le latin, la rhétorique, etc. D'où une liberté extraordinaire dans leur expression. Et ça, je trouve, c'est une remarque formidable. Les femmes sont présentes dans la littérature, elles écrivent de la littérature, elles en lisent.
Mais pour autant, vous êtes née au début de la Seconde Guerre mondiale, dans la France angevine, où vous avez grandi, l'éducation qu'on réservait aux filles n'était pas la même que celle qu'on réservait aux garçons.
Oui et non. D'une manière générale, surtout, l'inégalité d'éducation, elle passait pas tant entre les sexes qu'entre le haut et le bas. C'est-à-dire que si on appartenait aux couches inférieure de la société, eh bien, on avait un destin scolaire qui s'arrêtait à la fin de l'école primaire.
Mais vous, jamais vous n'avez eu l'impression de devoir vous battre davantage que si vous aviez été un homme ?
Non. Non, parce que j'ai eu la chance, avec des parents instituteurs, avec le système scolaire qui faisait que un certain nombre d'enfants sortant d'école primaire entraient au lycée, ne terminaient pas l'école primaire, allaient au lycée. Et donc, c'était le fameux, la méritocratie républicaine, comme vous voudrez. Ça concernait un nombre insuffisant d'enfants, mais tout de même un certain nombre d'enfants. Vous savez, on n'est pas très brillant aujourd'hui. Il y a moins d'enfants d'origine ouvrière dans les grandes écoles qu'en 1970. Mmh. Alors, ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire.
Et on entend quand même votre caractère.
Mais la différence entre les sexes, moi, c'était pas mixte quand j'étais élève. Hein. Enseignement de filles avec des professeurs femmes. Mmh. Eh bien, l'enseignement qu'on avait était rigoureusement le même. Et ça ajoutait un avantage. Je suis pas pour le retour à la séparation, bien sûr.
Non, commencez pas, on est
lundi matin. La mixité, je suis pour. Ouais. Mais, la seule différence, c'est que on n'attribuait pas certains dons ou certaines qualités au fait qu'on était une fille ou un garçon. Si une fille était bonne en maths, bon, ben c'était pas bonne en maths, on disait, bah oui, pour une fille, c'est moins important. Non, il y avait des filles bonnes en maths, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, il y avait une sorte d'égalité par une espèce d'universalisme qui est insuffisant, mais c'était déjà beaucoup.
C'est intéressant parce qu'on l'entend depuis le début de cette émission, hein, vous refusez de vous laisser enfermer ou déterminer par quoi que ce soit. Ça fait vraiment partie de votre caractère, de votre identité d'auteur aussi. Qu'est-ce qui vous a rendu libre, en fin de compte ?
Je pense que ce qui m'a rendu libre, c'est les livres. C'est les livres, c'est la petite école de ma mère, la classe unique de ma mère dans ce village, avec ce sentiment que les enfants de paysans, d'ouvriers agricoles, de vignerons, eh bien, allaient à l'école jusqu'à 14 ans, avaient un minimum très solide, très bien enseigné. C'est insuffisant. Je suis pour l'ouverture, la prolongation, bien évidemment, des études. Mais ça m'a donné l'idée que par l'instruction, on pouvait... Je suis allé parfois trop loin là-dedans. J'étais un peu idéaliste. On pouvait surmonter les clivages sociaux, ce n'est pas vrai. Mais on pouvait tout de même apporter beaucoup combattre et pour donner à la fois l'esprit critique et le désir de changer les choses.
Vous y retournez souvent dans votre Anjou natale ?
J'y retourne 400 fois par an.
Et qu'est-ce que vous ressentez là-bas face au fleuve,
par exemple ? C'est compliqué parce que comme vous quand Kafka né... dit de Prague, cette petite mer a des griffes, eh bien je sens que le pays natal a des griffes, c'est-à-dire qu'il vous lâche pas si facilement que ça. Donc moi je suis partie, non pas brutalement, mais je suis partie de façon résolue. À 18 ans, je voulais quitter la province, aller à Paris. Dans les années 60, c'était la moindre des choses.
Vous voulez dire que nos racines nous en serrent aussi ?
Voilà, les racines, c'est quelque chose qui risque, en effet, de vous tirer en arrière.
C'est un texte fluvial que vous nous avez écrit ce matin, Daniel Salna, rien que pour nous. J'aimerais que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien.
J'ai la passion des grands fleuves. Peut-être parce que je suis né au bord d'un grand fleuve, la Loire. Et j'ai compris... qu'avoir un fleuve comme terre natale, ça change tout. Enfin, depuis l'Antiquité, on dit que le fleuve, c'est l'inconstance, l'impermanence des choses humaines, comme disent les bouddhistes. Tout ça parce que le philosophe grec Héraclite, 500 ans avant notre ère, avait écrit « On ne se baigne jamais dans le même fleuve ». Mais cette phrase est formidable. Pourquoi ? Parce que quand je suis sur le bord de mon fleuve, la Loire, ou bien au bord de l'un ou l'autre des grands fleuves sur lesquels j'ai eu la chance de naviguer, en Inde sur le Gange, aux États-Unis sur le Mississippi et en Russie sur le Yénissei. Je me dis que l'écoulement d'un grand fleuve prouve qu'il est fou, qu'il est dérisoire et dangereux de s'accrocher à un sol, à des racines. Un fleuve nous dit quelque chose de beaucoup plus précieux que les racines. Il dit que nous avons une source, mais que nous n'y restons pas collés. Un fleuve grossit, change, traverse des paysages, et même des pays parfois différents. Ses eaux se renouvellent, il n'en reste pas moins le même. Il est tout petit au début, il est très large ensuite, à travers ses métamorphoses. Son identité est avec lui, elle est devant lui. Elle perdure à travers les changements. Oui, tout change, mais quelque chose subsiste à travers ce changement. Vous savez, quand la Loire se jette dans l'océan, pendant 18 kilomètres, on peut voir la trace plus sombre que les eaux de la mer. Ça prouve qu'elle hésite avant de disparaître. On devrait s'en souvenir quand certains voudraient se crisper sur l'idée d'une terre natale et en faire un bastion fermé à tous les autres. Moi, j'ai de la chance parce que ma terre natale, c'est un fleuve.
Merci infiniment, Daniel Salnave, pour ce texte et merci d'être venu faire un tour dans cette émission pour un lundi. C'est réjouissant. Je rappelle que Jojo le Gilet jaune est toujours publié dans la collection Tract chez Gallimard. C'est une lecture plus qu'éclairante. Je rappelle et je conseille aussi à tous les auditeurs de lire votre œuvre tout de suite. Sonia De Villers, La lumière des médias et son instant M, juste après ça.
Je me sens bien, je prends un...
L'épée Springfield 61 sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.
Je suis là, Augustin. À demain.
À domani.